Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle expérimentation radiophonique. Aujourd'hui, nous avons à nouveau sorti le studio mobile et nous l'avons installé place de la mairie à Évreux, place du Général de Gaulle, plus précisément à Évreux, à l'occasion d'un anniversaire. Alors non, c'est pas l'anniversaire de ma nièce, de ma cousine ou que sais-je, c'est l'anniversaire d'Artisans du Monde qui fête aujourd'hui ses 20 ans, 20 ans d'engagement, comme c'était sous-titré sur notre petite fiche. 20 ans d'engagement pour le commerce équitable. Nous aurons l'occasion, bien entendu, d'y revenir sur cette question de commerce équitable, ce que ça veut dire, comment c'est décliné, comment ça se met en œuvre concrètement et qui en sont les acteurs, finalement, de ce commerce qu'on qualifiait il y a peut-être 20 ans d'alternatif, mais aujourd'hui qui est réellement une façon de consommer. Mais nous aurons l'occasion, dans l'heure qui nous attend, de pouvoir explorer toutes ces questions. Autour de notre table pour échanger, discuter, papoter sur ces questions de commerce équitable et puis d'Artisans du Monde. Bien entendu, nous avons Gérald de Gaudreuil qui est délégué général d'Artisans du Monde. Nous avons Michel Deleu qui est bénévole Artisans du Monde. Nous avons autour de la table également Sophie Bertin qui est la maire d'Aviron mais qui est également partenaire d'Artisans du Monde. Et nous avons également Nathalie Gillard qui est présidente des panier de Verneuil. On aura l'occasion d'y revenir, c'est une sorte d'AMAP. Mais nous y reviendrons dans quelques instants. Normalement, on devrait nous rejoindre deux autres invités, mais on va les nommer que quand ils seront là, hein, sinon ils vont se faire afficher parce qu'ils ne sont pas à l'heure. Mais ça, ce n'est pas très grave. Pour radio-propulser cette émission, ah oui, il y a un public aussi également hein, qui est avec nous. Voilà, un public qui pourra agir, interagir durant cette émission pour notre plus grand plaisir, bien entendu. À la radio-propulsion de cette émission, c'est l'ami Damien qui est à la logistique, c'est l'ami Jean-Jean qui est au son dans les oreilles du public et c'est l'ami Vinci qui est à la diffusion radiophonique. Alors quand on disait que nous étions un anniversaire, les 20 ans d'engagement d'Artisans du Monde, eh bien on ne vous racontait pas de bêtises. Aujourd'hui, ça a commencé ce matin vers 10h30 à peu près, ça terminera jusqu'à 16h. Vous êtes tous invités à cet anniversaire, c'est un grand anniversaire public sur lequel il y aura des animations prévues. Ce matin, nous avons été accueillis par Guinguette et Bon Dimanche qui ont déambulé sur cette place de la mairie. Il y avait la chorale du Puy-Carré il y a quelques instants, c'est pour ça que voilà, on décale un petit peu les horaires parce que comme dans un anniversaire, eh bien on va pas s'arrêter à la minute et à la seconde près. Hein. Donc on avait la chorale du Puy-Carré. Nous sommes là durant une heure pour échanger. Aux alentours de 14h, ce sera la chorale, la clé de sol qui sera présent. Et puis à partir de 14h30, ce sera salsa et bachata avec Félix et Laura. Et bien, on va commencer à échanger avec nos invités. J'aurais envie peut-être de commencer avec Michel Deleu, bénévole artisan du monde sur Évreux. Bonjour Michel, comment allez-vous?
Bonjour, j'y sais, ça va, en forme.
Bon, c'est cool, un anniversaire avec ce beau temps sur la place de la mairie.
On a la chance d'avoir la météo et un petit peu de monde quand même. Il n'y a pas que des bénévoles artisans du monde. Donc,
C'est plutôt bon signe en fait. Ouais, voilà, c'est un anniversaire. On n'a pas invité que la famille.
Non, tout à fait.
On échange autour des 20 ans d'engagement autour du commerce équitable notamment. On va revenir sur un petit peu tout ce qu'on entend derrière tout ça. C'est Artisans du Monde qui fête ses 20 ans. Moi, je voulais revenir un petit peu. Qui est Artisans du Monde? C'est quoi Artisans du Monde? Et là, j'ai peut-être envie de partager la parole entre vous, Michel, et puis avec vous, Gérald Gaudreuil, qui est délégué général d'Artisans du Monde. Mais prenez chacun un micro et puis échangeons un petit peu. C'est quoi Artisans du Monde? Gérald, peut-être de manière générale et de manière nationale, c'est quoi Artisans du Monde?
Alors, bonjour à tout le monde. En fait, Artisans du Monde, c'est à la base une association de solidarité internationale. En fait, l'idée d'Artisans du Monde est née avec le constat qu'en fait les producteurs, les artisans, les paysans ne peuvent pas vivre dignement de leur travail. Et plutôt d'avoir une approche par l'aide qui peut être nécessaire et utile en cas d'urgence, c'est plutôt de permettre aux gens de vivre dignement de leur travail. Donc c'est cet esprit-là qui a été développé. Et concrètement, ça veut dire pour permettre aux gens de vivre dignement, il faut leur offrir des débouchés. Et donc en fait, la démarche d'Artisans du Monde, assez vite, qui est née comme une démarche qui est dans les années 50, à la fois aux Pays-Bas et aux États-Unis, c'est-à-dire on va créer des boutiques solidaires qui vont faire venir des produits qui viennent d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique, en achetant à un prix juste, ce qui permet de faire verser un salaire juste. Et d'ailleurs, cette idée-là aussi, ce n'est pas qu'une question du prix, c'est également des conditions de travail. C'est le constat que les gens ne travaillent pas forcément dans des bonnes conditions. Donc, c'est d'associer un prix juste à des bonnes conditions de travail. Et petit à petit, les filières de commerce qui étaient se sont développées, se sont structurées dans le monde entier. Et Artisans du Monde, nous, à partir de 1974, on a commencé à créer des associations, ouvrir des magasins, et beaucoup de gens nous ont rejoints pour pouvoir faire ce travail de vente de produits. Et qui était aussi associé assez vite à une démarche d'information, de sensibilisation, pour essayer d'expliquer un petit peu comment fonctionne le commerce international. Et c'était aussi important de permettre d'aider des producteurs, mais également de sensibiliser les citoyens de comment fonctionne le monde. Donc voilà, on sortait aussi d'une période un peu maintenant lointaine de décolonisation, avec des termes de l'échange qui ont été construits dans des rapports défavorables pour les pays du Sud. Et donc voilà, donc il y a besoin de sensibiliser, d'expliquer qu'on peut faire du commerce autrement, en respectant les producteurs, et puis permettre aussi aux consommateurs d'avoir accès à des produits de qualité et payer un juste prix.
Il y a une notion de responsabilisation du consommateur, enfin d'une responsabilité en tout cas du consommateur à travers le choix de consommation.
Artisans du Monde, on, je ne sais pas si on a été précurseur, mais on a utilisé depuis longtemps le mot consommateur, parce qu'effectivement, on est quand même responsable des achats qu'on fait, c'est clair.
Et c'est un acte qui pourrait, qui est un acte quasi politique en fait, au sens noble, hein, j'entends, quand on choisit de consommer de telle ou telle manière, finalement on agit sur le monde qui nous entoure, alors à notre échelle bien entendu, hein, mais on agit quand même sur le monde qui nous entoure.
C'est ce qui a dominé quand on a voulu créer Artisans du Monde Hébreu, c'était la dimension politique au sens propre du terme. Les quelques bénévoles au départ, on était. En fait, on a découvert chez des copains l'Auvergnat du Mascobado qu'on ne connaissait pas pour nous il y a 20 ans. Et on a échangé, les copains de Louviers commençaient à se faire aider par la boutique d'ADM Rouen. Et Hébreu, on a été sensibilisés et la dimension politique nous a intéressés. On n'était pas que dans le. On n'était pas dans le caritatif, on n'était pas à décider pour les producteurs, ça nous a séduit, c'est pour ça qu'on a essayé de démarrer Artisans du Monde Hébreu, Louviers à l'époque.
Alors, Artisans du Monde, c'est une boutique, hein, notamment sur justement cette place du Général de Gaulle, la place de la mairie d'Hébreu. Elle est juste en face, là, on la voit, parce que là, on est installé sur la place à côté de la fontaine, mais la boutique est à 20 mètres.
Hein, au pied de la mairie, voilà.
C'est une boutique, un commerce, mais associatif. Alors, c'est quoi cette particularité du commerce associatif?
Eh bien, on est une trentaine de bénévoles, Artisans du Monde Hébreu, et on tient la boutique à tour de rôle. Donc on est bénévole et on a un planning, on s'organise, voilà. Donc il y a la boutique, il y aura d'autres piliers aussi d'intervention, le plaidoyer, l'éducation, mais bon voilà, la boutique c'est aujourd'hui près de la mairie. Là, donc,
c'est une vitrine. Vous l'évoquiez à l'instant, quand on parle d'Artisans du Monde et de la boutique et puis pouvoir acheter équitable, il y a aussi de l'action éducative. On en parlait il y a peu de temps, il y a Guy qui est dans le coin,
qui
fait pas mal d'actions éducatives. Ouais. Il y en a peut-être d'autres hein, d'ailleurs dans son association.
Il y a Sabine, j'en oublie peut-être pas.
Ah oui, on ne va pas commencer à nommer, on va se fâcher avec ceux qu'on oublie. Hein, donc on ne va pas nommer forcément tous les bénévoles. Mais il y a cette action éducative, et notamment qui est faite alors, dans les écoles mais et autres également.
Des écoles primaires, collèges, lycées, voire universités. Et puis on peut être un peu fier parce qu'on est avec Louviers, je crois, que le ADM Louviers, c'est un des groupes, deux groupes éducation qui fonctionnent plutôt bien.
Alors, quand vous dites ADM, c'est Artisans du Monde.
Oui,
vous avez votre jargon. C'est important, Gérald, cette notion éducative aussi, au-delà de la boutique.
Bah, l'éducation, je dirais, c'est essentiel, en fait. C'est Nelson Mandela, je ne saurais pas le paraphraser, mais qui disait que c'était l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et qu'en fait, la compréhension du monde, la prise de conscience de comment nos fonctionnements, nos gestes peuvent influer sur le monde, c'est qu'en fait, on n'est pas que des consommateurs ou des consommatrices, on est également des citoyens, des citoyens. citoyenne. Et donc c'est important de comprendre que chacun à son niveau peut agir et peut faire sur son territoire, mais peut-être à l'échelle nationale ou internationale, faire changer les choses. Et on voit qu'aujourd'hui, par rapport à tous les défis qu'on doit affronter, les défis climatiques, les défis sociaux, les défis crise sanitaire, il y a besoin effectivement de cette compréhension des mécanismes qui produisent ces inégalités. Et en fait, le rôle de l'éducation, en intervenant dans les écoles, mais aussi en dehors des écoles, c'est d'expliquer, en adaptant forcément le message et les discours en fonction du public, et d'expliquer, ben voilà, le chocolat que tu consommes, le café que tu consommes, le thé que tu consommes, le jean que tu achètes, ben comment c'est fabriqué, dans quelles conditions, d'où ça vient, et d'éclairer un peu les personnes pour qu'elles puissent avoir des choix de consommateurs, mais également des choix en tant que citoyen, qui lui permettent de dire, ben voilà, moi, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie de faire, en fait. Et comment, moi, je peux influencer et faire changer à mon échelle, individuellement, collectivement, ça, c'est important, la dimension collective. Et c'est quelque chose qui nous anime beaucoup. Artisanat fait partie de beaucoup de collectifs, parce que l'action individuelle est nécessaire, mais seul, on peut pas faire grand-chose. Donc ça, c'est important aussi de contribuer à des actions collectives. Donc, on fait beaucoup au travers de campagnes, de mobilisations. Par exemple, le pacte pour la transition, on essaie d'engager depuis quelques années les collectivités locales avec d'autres acteurs de la transition, comme Alternativa, pour faire changer les pratiques des acteurs des collectivités qui ont un rôle à jouer également sur leur territoire pour lutter contre le dérèglement climatique, pour faire en sorte que les gens consomment mieux, pour faire changer les mobilités. Donc voilà, on participe à un certain nombre de dynamiques qui vont au-delà du commerce équitable pour contribuer à notre échelle à construire une société plus désirable et viable.
Alors justement, autour de la table, nous avons notamment Nathalie Gillard, qui est la présidente des paniers de Verneuil. Bonjour à vous,
bonjour
Nathalie. J'imagine que votre démarche des paniers de Verneuil, c'est une démarche assez similaire, assez proche de ce qu'on pourrait appeler les AMAP, que tout le monde, enfin, c'est rentré maintenant dans les pratiques un petit peu, enfin, dans les pratiques, ou en tout cas dans les oreilles de tout le monde. En quelques mots, déjà, qu'est-ce que le panier de Verneuil, et puis comment cette démarche des paniers de Verneuil, finalement, rejoint un petit peu cette conscience de consommateur.
Donc, les paniers de Verneuil, c'est une association qui a été créée il y a une douzaine d'années. Et donc, comme le système des AMAP, évidemment, on est là pour aider des jeunes producteurs, et notamment des maraîchers, à avoir une clientèle assurée pendant un laps de temps, de façon à ce qu'ils puissent semer pour nous, et récolter et compter sur le fait qu'avoir un débouché pour leur production.
Avoir une base, finalement, sur la visibilité de leur production et de leur travail, en fait.
Voilà. Donc, nous avons changé de maraîcher plusieurs fois pour des problèmes, mais surtout aussi la dernière fois, parce que notre maraîcher avait trop grossi, on l'avait suffisamment aidé, et il nous a dit, écoutez, je préférais que vous aidiez quelqu'un qui débute, et donc voilà, donc du coup, nous avons accueilli Christelle Bayette, qui est une jeune maraîchère, et avec qui nous travaillons depuis 3 ans.
J'imagine qu'il y a une fierté au bout d'un moment pour les paniers de Verneuil de se dire ben on a accompagné, on a travaillé avec un maraîcher et puis aujourd'hui ben, finalement il a ça a permis aussi qu'il projette son travail, qu'il projette un peu ses productions et puis qu'il dise au bout d'un moment bon ben là j'ai plus besoin de cette béquille qui peut être cette solidarité entre le consommateur et le producteur. J'imagine que c'est une fierté ça au bout d'un moment de se dire ça.
Oui, je pense que évidemment, mais et aussi c'est aussi très important qu'on accueille donc cette maraîchère et qu'elle à nouveau on recommence le travail que nous avions accompli. Voilà, donc moi j'ai à cœur que quand un producteur rentre, il soit bio, et c'est évident et c'est non négociable tant que je serai président des paniers de Verneuil. Donc, ou au moins en conversion, hein, c'est-à-dire
oui, parce que ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps quand même.
Oui, non, ça, il n'y a jamais de souci. Quand quelqu'un vient et me dit il sollicite pour des produits, je dis OK, voilà, mais conversion ou vous êtes déjà dans le réseau. Donc, nous proposons à nos adhérents un maximum de produits de façon à éviter le supermarché notamment. Hein. Donc, nous avons du vin d'Alsace, nous avons du pain, nous avons des œufs, nous avons des produits laitiers, Nous avons des fromages de chèvre, de la viande de mouton, de la viande de porc, des poulets, des pintades. Voilà, essentiellement des lentilles, de l'huile, voilà.
Quasiment, de quoi faire une alimentation de complète, quoi.
Complète. Et les produits d'Artisans du Monde qui viennent compléter, évidemment. Quand j'ai été contactée par les Artisans du Monde, j'ai des adhérents qui m'ont dit oui, mais c'est pas local, puisqu'on essaye aussi, évidemment, d'être le plus proche, de façon à réduire les coûts, parce que ce serait impensable de faire venir... J'en profite, évidemment, le vin d'Alsace, il vient deux fois par an, et il vient pas que pour nous, il fait toute une tournée, donc du coup, nous profitons de sa tournée.
Donc, c'est réfléchir les modes de consommation de manière générale, en fait.
Complètement, c'est-à-dire, on vient à un endroit, les producteurs s'arrangent entre eux pour ne pas venir à chaque fois, mais pour faire un circuit aussi, eux, parce que nous ne sommes pas leurs seuls... client entre grands guillemets, donc moi je préfère aussi avoir adopté l'appellation grâce à Artisans du Monde de consommateur, puisqu'il faut réfléchir à ce qu'on consomme et nous sommes les acteurs de ce que nous consommons. Et donc donc à Artisans du Monde, moi quand on m'a dit oui mais ça vient de loin, ok, alors trouvez-moi dans l'Eure ou dans l'Eure-et-Loire ou dans l'Orne un producteur de café, un producteur de riz, un producteur de thé, de sucre, de cacao, eh ben non.
Oui, je ne suis pas sûr qu'il y en ait. Hein.
Voilà, donc jusqu'à maintenant aucun de mes adhérents n'a trouvé, donc Artisans du Monde vient une fois par mois nous porter tout ça et nous en sommes très contents.
Michel.
Pour rebondir sur l'île d'Italie, effectivement, les producteurs de café, d'ananas et tout ça, il n'y en a pas beaucoup dans le quartier. Et qui plus est, on trouve que les producteurs du Sud, les paysans du Sud ont les mêmes problématiques que les paysans ici. Et que ben on vit pas en autarcie non plus, même si effectivement c'est logique de pas travailler avec des pommes qui viennent de 1000 km effectivement, mais en ce qui concerne les produits du Sud, c'est pas antinomique que de faire travailler des paysans dans le Sud et de vendre les produits ici, je crois.
Alors autour de la table également, nous avons Sophie Bertin, maire d'Aviron. Vous êtes partenaire d'Artisans du Monde également. Et là, on est sur un volet. En fait, vous administrez une commune qui est celle d'Aviron. J'imagine que quand on est maire d'une commune et que la commune est partenaire avec Artisans du Monde, c'est pas par hasard. J'imagine que il y a des valeurs derrière ou des choses à défendre.
Bonjour. Oui, c'est pas par hasard. Être administré une commune, comme vous dites, c'est effectivement un moment faire des choix. Tout à l'heure, les gens d'Artisans du Monde ont parlé de la responsabilité qu'on met dans nos achats. Nous, dans une commune, on fait beaucoup d'achats, on dépense beaucoup d'argent pour faire que les choses fonctionnent. Et ça a été un choix pour nous de nous dire quand on peut, on peut pas tout maîtriser, tout contrôler. Donc quand on peut le faire. Il faut mettre du sens dans ce qu'on peut. Alors moi, effectivement, c'est pas un hasard. Je connaissais Artisans du Monde auparavant. On a parlé un petit peu des AMAP là. Moi, je fais partie de l'AMAP d'Évreux. Donc mettre du sens dans nos achats, ça a été vraiment une priorité assez rapide. Et du coup, trouver des actions qui pouvaient se faire très vite dans la commune, c'était aussi important. Et Artisans du Monde, ça pouvait être mis en place très rapidement. Donc en fait, dès qu'on s'est installé, on a commencé à acheter du café. Donc le café qui est bu à la mairie d'Aviron, c'est du café qui vient d'Artisans du Monde. Et puis on a aussi, parce que dans la commune, on finance des jouets pour Noël pour les enfants. Et cette année, on a aussi travaillé pour ça avec Artisans du Monde.
Vous évoquiez, je voulais rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, c'est difficile effectivement de tout faire, soit sur des modèles locaux, soit, surtout pour une commune en l'occurrence, sur des modèles locaux, soit sur des modèles équitables ou autres. Et vous disiez, on fait ce qu'on peut. Et déjà, c'est un premier pas. Je me dirais peut-être, quand on nous écoute, on dirait, c'est un peu culpabilisant, finalement, moi je continue d'aller en grande surface, ou je continue à faire un truc, ça pourrait être un peu culpabilisant, mais finalement, non, le simple fait de faire un petit peu, ou ce qu'on peut, ou être dans une démarche, comme l'évoquait tout à l'heure Nathalie, de progression, c'est déjà ça.
Ouais, tout
à
fait.
Donc on n'est pas sur ce message culpabilisant en fait, hein. c'est juste ça.
Il faut vraiment faire en fonction, effectivement, à l'échelle de chacun. Ça, c'est important. Alors moi, si je me place du point de vue des collectivités, je pense quand même qu'une collectivité, elle a valeur d'exemple. Et c'est important que nous, on renvoie des choses aux habitants, aux citoyens. Nous, on a un autre alors on est sur les circuits courts, on a un autre projet où quelque part à l'intérieur, on fait aussi ce qu'on peut, c'est-à-dire qu'on va transformer notre cantine, où actuellement, on est dans une cantine de réchauffage de plats, et à partir de septembre ou d'octobre, on sera dans une cuisine de préparation de repas avec un cuisinier. Et là, effectivement, là, on fait ce qu'on peut. C'est-à-dire que il ne faut pas croire, mais installer un cuisinier, c'est très, très compliqué. Et donc, on va pouvoir mettre en place des circuits courts, travailler sur certains produits avec certains producteurs. Et là, on ne peut pas tout révolutionner et travailler que en circuit court sur tous nos produits. Donc là, on fait ce qu'on peut. On commence avec le producteur de viande d'aviron, avec un boulanger, etc. Et le reste, puis on fera encore un peu d'achat, en gros, parce qu'on n'aura pas le choix. Donc on est un peu, effectivement, on fait ce qu'on peut, mais chaque petite goutte d'eau, c'est déjà un pas, quoi.
C'était, je trouvais important de souligner cette notion aussi, qu'on soit pas... Alors, on a un public en folie qui valide tout ça. Peut-être une première interaction, je ne sais pas, quelque chose dans le public, surtout si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. On a l'ami Jean-Jean qui est équipé d'un micro. Voilà, c'est normal, la première voilà, une première intervention. Madame, bonjour. Alors, peut-être votre prénom, histoire de voilà, que les auditeurs...
Alors, moi, je suis Marie-Bonne, je fais partie d'Artisans du Monde, je suis sur le groupe éducation. Et je voulais justement y revenir un petit peu parce que cette année on a travaillé avec un lycée professionnel à Mantes-la-Jolie et j'en parle parce que c'est vraiment une action qui diffère un petit peu des autres puisque on travaille avec eux pour former des jeunes ambassadeurs du commerce équitable et donc on a fait plusieurs interventions sur ce lycée et on a rencontré des jeunes très motivés qui vont devenir justement des ambassadeurs du commerce équitable pour pouvoir en parler, notamment dans des écoles primaires, dans des collèges ou dans leur propre lycée. Et c'était une action... j'en parle parce que c'est vraiment exceptionnel. Habituellement, on fait des interventions dans les lycées, les collèges et les écoles. Mais là, c'est une action qui va durer dans le temps parce qu'on ne va rien intervenir encore. Donc voilà.
Merci de ce témoignage. Madame, vous souhaitiez prendre la parole aussi.
Oui, moi, je vais bien continuer par rapport à l'éducation, l'animation.
Prénom, madame.
Moi, je m'appelle Annick. Je suis du groupe de Louviers.
Très bien,
Annick. ADN de Louviers. Et ça rebondirait... alors, l'éducation, effectivement, dans le milieu scolaire, mais je me dis aussi tout le travail d'éducation, animation que l'on peut faire en interassociation qui concerne, effectivement, alors qui va rejoindre le travail des municipalités et le local, parce qu'il faut bien sensibiliser les gens pour qu'ils réfléchissent sur leur action, sur... Alors, on a parlé du climat, mais aussi sur différents points. Et ça, ça me paraît important pour un groupe ADM de faire cette animation tout public. Alors, en particulier, nous, on travaille beaucoup autour du festival alimentaire, qui nous fait... qui rejaillit aussi sur les établissements scolaires. Mais je pense que pour faire des pas dans la société, les citoyens, c'est important.
Très bien. Merci également de votre témoignage. Guy,
oui,
vous, on reconnaît Guy. Bonjour.
Ah, c'est juste simplement pour dire que ça fait vraiment plaisir de se rendre compte qu'il y a quand même des gens bien, des gens généreux, et puis ils ont raison de témoigner, parce que ça remonte le moral.
Merci Guy pour ce beau message. Une prise de parole. Alors, s'il n'y a pas de... Vous aurez l'occasion, bien sûr, de prendre la parole tout au long de cette émission. Je vous propose qu'on écoute un premier micro-trottoir, enfin, un micro-trottoir réalisé par Jean Do, du groupe Artisans du Monde, autour des circuits courses qui ouvrira notre échange sur les circuits courses. Qu'est un circuit court? Pourquoi? Comment? Et comment ça fonctionne? On écoute tout de suite, eh bien, les citoyens, comme l'évoquait justement Guy à l'instant, les citoyens hébroïciens au micro de Jean Do.
Pour vous, qu'est-ce que le circuit court?
C'est le marché direct. Ben, le circuit court, ça permet déjà à tous les producteurs éventuellement de vivre de leur production. Et puis, ça évite aussi les transports qui polluent, le carbone, les émissions de CO2.
C'est la solution à beaucoup de problèmes actuels. C'est incontournable. Voilà. C'est vers quoi on doit aller le plus possible.
Pour vous, le circuit court, c'est en relance quoi ?
On privilégie les artisans, les agriculteurs et autres relativement proches.
Alors, le circuit court, c'est acheter au plus près de chez soi, chez des producteurs locaux de préférence. Voilà.
Le circuit court, pour moi, c'est travailler avec des producteurs locaux, tout simplement.
Pour moi, ce sont des produits qu'on achète chez un agriculteur voisin, chez un producteur voisin, et d'aller dans des commerces de proximité.
Vous êtes sur le marché ce matin, donc vous achetez principalement en circuit court.
J'essaie, oui, de saison et de circuit court.
Mais quand même, dans la mesure où c'est possible, puisque déjà j'en ai là, mais tout n'est pas un circuit court, on ne sait pas forcément, il y a des choses qu'on ne peut pas acheter en circuit court, hein, de toute façon.
La lessive, par exemple, non, si vous voulez, la mangue, non plus. Même les fruits, c'est difficile, parce qu'ici, à part les pommes, en circuit court, c'est un peu juste.
Ah oui, mais même là, sur le marché, j'ai acheté des oranges.
Vous achetez dans le circuit court régulièrement?
Tout ce que je peux acheter en circuit court, de saison et local, je le fais. C'est pas priorité.
Tous les légumes, la volaille.
On achète quasiment qu'en circuit court. Sauf que certains produits, on va dire internationaux, afriques.
Oui, j'achète, je préfère effectivement travailler avec les petits artisans. Je suis normande, je suis native d'ici, mais maintenant j'habite en Touraine, donc je vais travailler plutôt les petits producteurs de Touraine. Ouais, voilà.
Vous achetez des produits bio et équitables aussi?
Oui, depuis peu. Bio, ça m'arrive, équitable, pas trop.
Moi, je ne suis pas bio du tout.
Ça dépend, parce que le bio de chez Carrefour, par exemple, c'est pas vraiment du bio. Mais sinon, voilà, j'essaye.
Je les achète sur le marché et puis dans les bio, quoi. En général, dans les bio, moi, dans les grandes surfaces.
Oui, pas pour tout, mais oui, assez régulièrement quand même. Pour toute la partie, plutôt fruits, légumes, voilà.
Rarement. Le chocolat.
Le chocolat, d'accord. Voilà.
Oui, pas toujours, hein, parce que le bio est cher. Hein.
Un peu, pas tout le temps, parce que...
Souvent, c'est raisonné.
Est-ce que vous connaissez Artisan du Monde?
Oui, depuis peu.
Oui, tu connais.
Vous connaissez.
Tout à fait.
Ça vous arrive d'acheter parfois?
Ça arrive ponctuellement, plutôt pour des petits cadeaux, plutôt sur les périodes de fête. Ouais, voilà, c'est ça.
Thank you.
Gospel Traveler, c'est ça que vous avez écouté à l'occasion de l'anniversaire des 20 ans d'Artisans du Monde. Nous sommes en direct, en live et en public sur la place de la mairie, la place du Général de Gaulle à Évreux. Et rejoignez-nous, c'est là que ça se passe. Et nous sommes, comme je le disais, en direct de cette place de la mairie à Évreux. Voilà, la fête va se dérouler jusqu'à 16h aujourd'hui. J'avais oublié de le dire au démarrage, c'est vrai que Artisans du Monde, on est là aux 20 ans, mais on se côtoie tous les mois quand même. Il y a cette émission mensuelle le dernier samedi du mois à 11h, où on peut inviter aussi les auditeurs à venir tendre l'oreille sur nos ondes. C'est ouais, dernier samedi à 11h. Ça fait partie de l'action éducative, tout ça.
Oui, c'est ça. On a une équipe. Ils sont quelques-uns, ils ont été formés aidés par Damien au départ, et maintenant ils sont assez autonomes, hein. Ils vont devenir des pros de la radio peut-être, mais ça permet chaque mois de présenter une coopérative, de présenter un produit qu'on met après en avant en boutique, enfin, ça permet de faire connaître un peu nos actions. On parle du groupe éducation, on parle de différentes choses qu'on fait, voilà.
Il y a quelques instants, justement, on écoutait un micro-trottoir tourné par Jean Do, qui fait partie de l'équipe de cette émission de radio mensuelle. On parlait des circuits courts, un petit peu, comment c'était abordé. Vous voulez peut-être rebondir sur ce micro-trottoir que nous avons écouté, Gérald Gaudreuil, délégué général d'Artisans du Monde.
Voilà, effectivement, ce qu'on entend souvent, c'est que les gens confondent circuits courts et circuits de proximité ou du local, en fait. C'est-à-dire que la définition officielle qui est donnée par l'histoire agriculture, en fait, un circuit court, c'est une relation directe entre un producteur et un consommateur, ou une relation où il y a un seul intermédiaire. Et en fait, finalement, souvent, les gens pensent qu'un circuit court, c'est une circuit de proximité à moins de 50 km, moins de 100 km. Voilà. Après, les deux vont souvent de pair, en fait. Si vous avez une relation directe avec un producteur, vous n'allez pas traverser la planète pour aller à la relation directe. Et même dans l'idée ou dans la démarche d'Artisans du Monde, il y a quand même le besoin de relier le producteur et le consommateur. C'est en fait, relier, ça veut dire aussi faire en sorte que le consommateur il sache qui a produit le bien qu'il achète, d'où vient son cacao, d'où vient son café. Donc finalement, on fait une sorte de relation la plus directe possible entre producteur et consommateur, même si on traverse quelques pays pour pouvoir faire venir les produits dans les magasins Artisans du Monde.
Sophie Bertin, maire d'Aviron, vous souhaitiez réagir aussi sur cette notion de circuit court.
Il y a dans le micro-trottoir, il y a une personne qui a dit oui, les circuits courts, c'est une solution, c'est quelque chose pour nous aider sur une solution. C'est une solution actuelle. Je ne sais plus bien la phrase qu'elle a dit pour résoudre nos problèmes. C'est sûr que, bon, là, ça vient d'être expliqué par Artisans du Monde dans le cadre des producteurs que vous suivez, mais se questionner sur d'où vient le produit, qu'est-ce qu'on achète, ça, c'est important. La productrice avec laquelle on va travailler sur notre cantine qui fournit le pain, c'est une boulangère et en fait le blé, c'est son mari qui le produit dans son champ d'à côté. C'est pas rien ça. C'est vraiment là, on est vraiment dans un circuit court. On va le répéter.
C'est la cour au jardin même.
Oui, c'est ça. Mais effectivement, dans notre société très mondialisée, où il y a des répercussions immédiates sur le cours des produits, sur les transports, etc., et ben là, il y a quasiment pas de transport.
C'était une question qui avait été abordée d'ailleurs sur ce micro-trottoir, cette notion de transport et de proximité également.
Nathalie Gillard, présidente des Paniers de Verneuil, vous souhaitiez réagir?
Oui, moi je voulais réagir au fait qu'ils disent que le bio c'est cher. Alors évidemment le bio en supermarché ça peut être très cher même, mais évidemment quand on s'adresse directement au producteur et qu'on passe sans intermédiaire, le bio est tout à fait abordable. En plus, quand vous avez un produit bio, il faut savoir qu'il n'est pas plein d'eau, plein de pesticides. Et donc, du coup, vous avez à peu près 30% d'eau en moins dans un produit bio. Du coup, vous achetez un kilo de carottes bio, vous avez l'équivalent d'un kilo 3 de carottes conventionnelles. Du coup, quand vous les mettez la viande dans la poêle, les carottes dans votre marmite, et ben vous avez plus de produits à l'arrivée que d'eau qui dans certains autres produits conventionnels. Voilà.
Oui, il y a une idée qui dit que sur les produits bio, c'est plus nourrissant. C'est ça, on est dans cette question-là. Justement, alors, on a la chance d'avoir un producteur avec nous. On parle de producteur depuis un petit moment. Nous avons un producteur qui nous a rejoint pour justement ces 20 ans d'Artisans du Monde. C'est Jacques Godard. Vous êtes producteur de pommes, notamment. Bonjour à vous. Comment allez-vous, Jacques? Commençons par ça. Alors, je vous invite à poser le micro sur le menton. En fait, c'est comme ça qu'on a le meilleur son. Voilà. oui, vous l'avez dit, bien.
Hein. J'ai été averti. Oui.
Donc, comment allez-vous, Jacques? Déjà, on va commencer par ça. Ouais, on commence par des politesses normales. Hein.
Moi, ça va très bien, sauf que j'avais un peu zappé le rendez-vous. Et je suis tellement embêté. Voilà, pourtant, c'est important pour moi d'abord de remercier les gens qui m'ont invité, l'artisan du monde que je connais depuis un certain temps. Et puis, je connais aussi Sophie, je connais Nathalie du réseau des AMAP, avec lesquels j'ai travaillé. Donc, je suis aujourd'hui producteur retraité, mais encore paysan sur mes 5 hectares. Je fais entre autres un verger, puis un peu de légumes pour moi, et je prête un peu de terrain à des jeunes qui s'installent.
Voilà. On vous a présenté comme étant un producteur, mais au-delà d'être un producteur, aussi un militant, qui défend des idées au-delà de la production.
Ouais, militant, je ne sais pas si on a un mérite à être militant. J'ai surtout, ce qui m'a rapproché d'Artisans du Monde, dès que je suis rentré du Burkina Faso, j'ai eu la chance de travailler pendant 4 ans avec les paysans. C'était l'association Frères des Hommes à l'époque. Et aussitôt rentré, j'ai pris contact avec le réseau des paysans, qui s'appelait Travailleurs Paysans à l'époque, qui est devenue Confédération Paysanne, donc ça ne nous rajeunit pas. Et voilà, qui défendait une agriculture paysanne, c'est-à-dire des paysans qui produisent pour nourrir la population la plus locale possible, quoi. Et voilà, ça nous amène à réfléchir à ce qu'est devenu l'agriculture, une agriculture exportatrice qui va détruire les bases d'économie paysanne des pays du Sud. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important aujourd'hui qu'on fasse comprendre ça à un maximum de gens, parce que c'est un tel drame de voir le sort qui est réservé aux gens, aux jeunes qui fuient leur pays, parce que on n'a rien fait depuis 40 ans pour répondre aux défis qui démarraient déjà, les défis climatiques. C'est aujourd'hui une catastrophe qui nous concerne tous partout sur la planète, et c'est urgent de repenser le mutualisme. D'ailleurs, si on a l'occasion, j'ai amené un petit truc là.
Écoutez, il y a pas de problème. Je vais noter cette notion de mutualisme, pour un peu plus tard dans l'émission. Il y a la notion qui a été abordée sur la production, qui est cette notion de circuit court, et en parallèle, il y avait cette notion de prix de production, comment est-ce qu'un consommateur qui ça ne s'invente pas dans le monde dans lequel on vit, chacun voit comment il peut faire avec son budget, comment on arrive à boucler les fins de mois les uns les autres. Cette notion de prix, moi je voulais revenir dessus, et Jacques pourra témoigner en tant que producteur aussi, mais artisan du monde, enfin, tout le monde pourra d'ailleurs évoquer cette notion de prix. Dans un prix de production, il y a quoi et qu'est-ce qui fait qu'un prix est digne? Jacques, je vous en prie, vous étiez parti. Et vous avez du retard sur les temps de parole, comme on dit. Ah, et bien, c'est à la mode, ça.
Ouais, le prix, pour moi, les prix en agriculture, c'est une vraie imposture, je dirais. Parce que, franchement, Même les mots libéralisme aujourd'hui pour moi n'ont plus de sens depuis un bout de temps d'ailleurs, j'avais compris ça. Parce qu'aujourd'hui, si on parle des fruits et légumes par exemple, faut savoir que les producteurs de fruits et légumes sont quasiment à côté de la plaque et de la PAC. Parce que,
la PAC, c'est la politique agricole commune.
Voilà. Ce qui détermine le revenu d'un maximum d'agriculteurs aujourd'hui, notamment la grande culture. Ceux qui produisent des agrocarburants sont hyper subventionnés et ceux qui produisent des fruits et légumes, ils font même plus les dossiers parce que c'est. Bon, je ne qualifierai pas la démarche pour faire ces démarches administratives. Mais du coup, ils passent un temps fou puis ils récupèrent des clopinettes. Parce que 80% du budget de la PAC, c'est distribué à l'hectare. Plus t'as d'hectares, plus tu touches. Donc quand tu as compris qu'un maraîcher, il a un ou deux hectares, ça l'occupe largement. Alors que les producteurs d'agrocarburants, ils sont à plusieurs centaines d'hectares. En société, on ne sait même plus combien de centaines d'hectares ils ont. Donc eux, c'est autour de 300 euros de l'hectare. Plus la défiscalisation des produits qu'on met dans nos réservoirs. Donc ça, c'est hallucinant, quoi. Donc aujourd'hui, le prix des produits agricoles n'a plus, pour moi, aucun sens. Et les vrais libéraux, au sens premier du terme, c'est les producteurs de fruits et légumes, parce qu'eux, ils vivent de leur travail. Bon, effectivement, parfois, le consommateur trouve que c'est un peu cher, mais en circuit court, c'est justement pour ça qu'on a eu, à une époque, la volonté de créer les AMAP, pour chanter un peu toute cette grande distribution qui profite sur le dos des paysans, notamment des bio.
Sur cette notion, alors, je me retourne directement vers Artisans du Monde et Gérald Godreuil, délégué général en particulier. Qu'est-ce qui fait un prix et par rapport à ce que vient de dire Jacques, voilà, comment on peut sortir de ce système pour faire des prix?
Alors effectivement, le prix, c'est un élément incontournable, notamment de la démarche du commerce équitable. Mais le commerce équitable se construit autour du prix juste. Et qu'est-ce qu'on appelle un prix juste? En fait, c'est un prix qui permet à une personne de vivre dignement. Et on fait tout un travail, je ne rentrerai pas dans la complexité des calculs qui sont menés quand on fait des audits ou calculs de prix avec des producteurs, mais il y a la notion de ce qu'on appelle d'avoir un salaire décent, un salaire vital. Et en fait, c'est de faire en sorte que quand je construis un prix avec un producteur, c'est de m'assurer que le prix que je vais payer, ça va couvrir les coûts de revient. Et ça peut paraître évident de se dire que, en fait, un prix, ça doit couvrir les coûts de revient. Et effectivement, ce qu'on constate, notamment dans l'agriculture, c'est qu'en fait, le prix de revient n'est pas forcément le prix qui va être la base, la référence pour le prix d'achat. Et on l'a vu, on a parlé il y a pas longtemps des états généraux de l'alimentation, où tout d'un coup, une espèce de révélation du gouvernement, qu'en fait, les gens, les producteurs ne vivent pas de leur prix de vente, mais qui vivent effectivement des subventions, et que, en fait, le prix payé aux agriculteurs est largement insuffisant. C'est qu'on a aussi habitué les consommateurs à avoir des prix bas. Mais nous, on dit souvent que un prix bas, c'est au détriment toujours d'un acteur de la filière, et le prix des uns, c'est le salaire des autres. Donc, quand vous avez un prix bas, ça veut dire qu'il y a vraiment dans la filière, il y a des gens qui vont être mal payés. Et donc, quand vous êtes mal payé, c'est aussi des conséquences sociales, mais aussi des conséquences environnementales. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez produire plus parce que vous êtes mal payé, eh bien, vous allez détruire l'environnement. C'est-à-dire que vous voulez mettre des produits chimiques de synthèse, vous voulez raser la forêt, parce que ça permet d'étendre votre production parce que vous êtes mal payé. Donc voilà, donc le prix bas, ça a des conséquences. Et en fait, finalement, on ne se rend pas compte, mais le consommateur, le prix bas, il va le payer par ses impôts. C'est ce qu'on appelle des externalités négatives dans le jargon, ça s'appelle des coûts cachés. Ça veut dire que quand vous achetez un produit qui est blindé de produits chimiques de synthèse, qui va polluer les nappes phréatiques et du nitrate, après le coût de la dépollution, c'est le citoyen qui paye avec ses impôts. Et aussi des questions de santé, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous prenez des produits chimiques qui vous donnent des cancers, que ce soit notamment les paysans qui sont les premiers touchés, mais aussi les consommateurs, ça vous le payez aussi dans les frais médicaux. Donc voilà, finalement, on s'est habitué à un prix bas, et aujourd'hui, c'est pas une question de est-ce que les produits sont chers, mais ils sont pas assez chers. Et c'est assez compliqué dans un contexte de hausse des prix, de crise de pouvoir d'achat, donc effectivement, de parler de prix élevé. Mais effectivement, c'est un vrai enjeu de société de savoir est-ce qu'on est capable aujourd'hui de rémunérer à sa juste valeur les producteurs et faire en sorte que le consommateur puisse avoir accès à des produits de qualité sains et payés au juste prix.
Sophie Bertin, maire d'Aviron. J'ai vu que vivement vous souhaitiez réagir sur ces notions de coût aussi pour le citoyen en dehors de l'alimentation pure et dure.
Je trouve que ce qui vient d'être expliqué est vraiment très juste sur le fait qu'on paye un prix bas, on le retrouve dans ses impôts. Bon. Je trouve que nous, dans les collectivités, je trouve qu'on a cette capacité-là à prendre du recul tout de suite. C'est-à-dire que bien sûr qu'on a un budget à gérer, et bon, on ne va pas entamer le budget sur les collectivités, mais qui diminue aussi. Enfin, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on consomme. Mais seulement nous, on est capable de se dire que le prix bas, peut-être que c'est pas le bon. C'est-à-dire qu'on peut se dire, même si on paye au prix qui permet de respecter et qui permet de donner une vie digne aux producteurs, ça permet aussi de diminuer les déchets. Et ça, les collectivités, elles payent les déchets, on diminue les déchets, on crée des emplois locaux, ou on soutient les emplois locaux. Et ça, c'est une retombée immédiate sur l'économie locale. Il y a une meilleure santé, c'est ce qui vient d'être dit. Et tout ça, en fait, c'est comme si... Enfin, moi, je pense que nous, dans les collectivités, on peut se permettre de dire on ne fait pas des économies de bout de chandelle. Moi, j'appelle ça des économies de bout de chandelle. Et oui, on paye et on rétribue à la juste valeur des choses parce qu'on sait qu'après, ça va amener des économies pour la société en général, quoi. Et ça, c'est important.
Et puis, des bienfaits de manière générale, on l'évoquait il y a quelques instants, Gérald le soulignait, les questions sanitaires, quand on utilise du produit, enfin, comment on appelle ça, les intrants ou... dans le micro, en fait, je vous entends.
On parle d'intrants chimiques de synthèse,
voilà, des choses comme ça.
Fongicides, herbicides, etc.
Voilà, tout ça, forcément, on le retrouve sur la santé, ça paraît assez évident. Je vois Nathalie aussi qui dit oui de la tête, effectivement, quand on défend d'autres types de réseaux. On en est convaincu, j'imagine. On a abordé cette notion de prix, on a abordé ces notions, on pourrait y passer du temps sur ces notions de prix, ce qui fait le prix et comment on retrouve la dignité justement dans le... Enfin, comment on travaille dignement, enfin, comment on vit dignement de son travail. Je voulais revenir moi sur la notion producteur-client et ça c'est quelque chose d'important aussi. On évoquait tout à l'heure avec Nathalie Gillard que les producteurs, elle les connaissait. Du panier de Verneuil. Voilà, on connaît les producteurs, on soutient une production, on donne même de la visibilité sur la production qui va être achetée par cette association, le panier de Verneuil, en tout cas par les adhérents de cette association. Ce rapport producteur-client, de le connaître, de savoir d'où viennent les produits, j'imagine que c'est important pour vous, Nathalie. Peut-être même essentiel.
C'est essentiel, c'est sûr. Donc, les relations entre le producteur et le consommateur, du coup, c'est très important. Il faut qu'ils viennent, qu'ils participent à l'association et que les gens viennent chercher leur panier sur place pour pouvoir échanger. Là, on a eu un échange très important lors de la dernière AG avec notre boulanger, qui nous a expliqué à quel point c'était compliqué des fois de trouver la bonne farine qui n'était pas forcément produite malheureusement en France, mais qu'il tenait absolument à ce pain. Il nous a expliqué pourquoi. Donc il y a vraiment eu un dialogue qui s'est créé avec nous. Donc du coup, nous, maintenant, on connaît toute sa gamme de pain. Ceux qui veulent vraiment de la farine française vont acheter ce pain plutôt que l'autre. Et comme ça permet d'avoir un vrai choix. Il nous a aussi dit que les minotiers avec qui ils travaillaient ne souhaitaient pas augmenter leur prix. Du coup, notre pain n'augmentera pas. Et donc, voilà. Ce qui est contrairement à ce que racontent certains, peut-être, qui n'est pas toujours la vérité. Donc, parce que je pense qu'il y a des gens qui en profitent, des producteurs qui profitent d'augmenter leur prix. Voilà.
Et c'est-à-dire, si le prix global augmente, j'augmente, peu importe si mon fournisseur a augmenté.
Voilà. Et je pense que c'est un peu le danger qu'on peut rencontrer.
Cette relation, et là je me retourne vers vous, Jacques Godard, vous êtes producteur notamment, cette relation aussi avec le consommateur, je ne sais pas si on peut dire client ou pas, parce que dans la notion de client, il y a comme si il n'y avait pas de lien justement. Quand on parle de consommateur, finalement, il y a ce lien, elle est importante, cette relation, ce lien avec le consommateur. Qu'est-ce qu'elle apporte en fait hein, qu'est-ce qu'elle apporte ce lien?
Elle apporte le plaisir du travail au quotidien parce qu'on sait pour qui on travaille. C'est des gens avec qui on établit une relation de confiance et on a envie que eux soient contents, satisfaits du goût des produits et de la qualité. Et puis nous, qu'on puisse vivre de notre travail. Quoi. Mais d'où, encore une fois, le besoin qu'on a éprouvé il y a une quinzaine d'années de monter des AMAP pour justement établir un lien de proximité parce que dans l'agriculture mondialisée dont vous avez parlé et que vous avez évoqué tout à l'heure, le lien entre le producteur et le consommateur sont complètement distendus. Il y a un fossé énorme. Donc, c'est un des défis majeurs aujourd'hui, c'est de rapprocher ces gens-là pour arriver à mieux se comprendre plutôt que d'aller faire le plein dans les grandes surfaces sans réfléchir trop, sachant qu'on trouve dans ces grandes surfaces de plus en plus de produits ultra transformés. Et ça, il y a des gens maintenant qui travaillent là-dessus, même des scientifiques, notamment, je penserais à Anthony Fardet de l'INRA Clermont-Ferrand, qui nous explique combien ces produits ultra transformés sont toxiques pour la santé. Et bon, c'est sûr que c'est facile, c'est prêt à consommer, mais au niveau valeur alimentaire, les nutriments qu'on attend sont plus là, quoi. Donc on mange la malbouffe, nous coûte très cher. Et entre autres, tout à l'heure, on peut chiffrer, parce que j'ai eu la chance, en tant que membre de la Confédération Paysanne, de la représenter au Conseil National de l'Alimentation. C'est donc un organisme qui est chargé de donner des avis sur les questions alimentaires. Les ministères de tutelle, c'est l'agriculture, la santé, l'environnement et l'éducation nationale. Et dans ce cadre-là, on a travaillé, entre autres, sur un sujet, l'alimentation favorable à la santé. Donc, pour ces structures-là, comment ça se posait la question, ça veut dire qu'il y a un problème. Et dans ce cadre-là, on s'aperçoit aux chiffres, les médecins même qui ont ressorti les chiffres, rien que le surcoût par rapport au surpoids, c'est autour de 20 milliards d'euros. Donc, par an, pour la Sécu, sans compter le reste, cardiaque et compagnie. Bon, sachant que le budget de la PAC pour l'agriculture française, c'est autour de 9 milliards tous les ans. Donc, en fait, on donne 9 milliards et en fait, ça nous coûte, enfin, sans compter ce que vous avez expliqué, la dépollution et tout le reste. Donc, c'est pour ça que l'économie agricole aujourd'hui, c'est une économie au service des lobbies et complètement, on est pris en otage, que ce soit les consommateurs ou les producteurs. On est les dindons de la farce, excusez-moi l'expression, mais on est vraiment...
Justement, sur ces relations avec les producteurs, ça réagit effectivement sur les bancs du public. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez vous emparer de la parole, Jean-Jean a toujours un micro, on organise les prises de parole, bien entendu. Madame veut prendre la parole. Alors, un prénom et...
Non, mais c'était tout, c'était pour dire que nous, artisans du monde, on était convaincus... Ah, sous le menton. Qu'on était convaincus, tout ce qu'on entend, évidemment, on est tout à fait d'accord. C'est un peu dommage que ça ne communique pas un peu plus à l'extérieur. Voilà.
J'ai la sensation tout de même que ces questions d'alimentation se posent différemment qu'elles se posaient il y a 10 ou 20 ans, peut-être parce qu'il y a urgence, peut-être parce qu'il y a d'autres questions qui en sont liées. Je pense notamment aux questions environnementales ou les questions de revenus aussi pour les uns pour les autres. Mais j'ai quand même la sensation qu'elles se posent autrement aujourd'hui qu'elles se posaient il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Peut-être que ça s'est dégradé, peut-être dans les conditions. Jacques, vous souhaitiez réagir vite. Et madame, juste après. Jacques, les questions se posent différemment quand même. Hein.
Il y a 20 ans, c'est de plus en plus compliqué pour avoir une alimentation correcte. Quoi. Et c'est vrai aussi que les conditions de vie, la condition de la femme, c'est génial qu'elle puisse se libérer des tâches quotidiennes ménagères. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de produits industriels consommés. Mais il faudrait peut-être que les hommes participent aussi à la cuisine. Et je dois dire, ça regarde personne, mais je le dis quand même, on a trois garçons qui aiment faire la cuisine et ça fait plaisir.
Ça va avec le plaisir de manger aussi. Hein. Quand on a de bons produits, il y a le plaisir de manger. Et quand il y a le plaisir de manger, il y a le plaisir de cuisiner, peut-être.
Bien sûr, bien sûr.
C'est une question aussi, parce qu'on ne l'a pas abordé, mais c'est une question de plaisir, quand même, l'alimentation, au bout d'un moment. Quand c'est bien fait, il y a un vrai plaisir. Parce qu'on parle de questions économiques, de questions de dignité de travail, de questions économiques. Mais finalement, l'alimentation, ça peut être aussi du plaisir. Et ça, ce serait bien que ça le soit, d'ailleurs. Enfin, pardon, c'est mon avis.
Ça le reste, oui.
Madame, un prénom et dites-nous.
Oui, alors Marie-Hélène, artisan du monde de l'eau. Je voulais réagir à ce qu'a dit Jacques Godard par rapport aux subventions de la PAC entre ce que touchent les maraîchers et ce que touchent les agriculteurs plus conventionnels. Et du coup, moi, ça me pose une question sur la notion d'assistés. Qui sont vraiment les assistés dans la société dans laquelle on vit ? C'est tout.
D'accord, alors on y répondra peut-être pas aujourd'hui, mais la question mérite d'être posée et d'y réfléchir. Tout à fait. Merci beaucoup. Vous avez pris le micro parce que vous avez la réponse, Jacques, c'est ça ?
Non, j'ai pas la réponse, mais je sais que là aussi, c'est nous qui payons. Donc c'est une question, c'est pour ça qu'on a une totale légitimité à en parler. Enfin, je pense qu'avant qu'on
conclure... On y revient juste après. Oui, justement, alors non, dans l'organisation...
On va pas zapper cette
façon. Non, mais vous êtes venu avec, on va pas zapper, bien entendu, Jacques. Juste avant, je voulais revenir sur cette notion de producteur, parce que là, on parlait de producteurs en local, ceux qu'on côtoie. Ce qu'on voit, ceux qui viennent livrer la marchandise, notamment, je pense au panier de Verneuil, je pense à Jacques qui est juste à côté de nous. Donc ça, ce sont les producteurs de notre environnement proche qu'on rencontre. Chez Artisans du Monde, ils ne sont pas tous proches, les producteurs, mais quelle est la relation ? Comment on détermine qu'un producteur va rentrer dans le réseau ? Comment ça se passe ?
Ah ben ça, je vais laisser la parole à Gérald là-dessus, mais on reçoit des producteurs grâce à la fédération assez régulièrement. Bon, il y a eu 2 ans de Covid, c'était un peu problématique, mais on reçoit des producteurs régulièrement. Ça veut dire qu'ici, dans les associations locales, on peut dialoguer avec un producteur. Alors évidemment, on ne le voit pas toutes les semaines, hein, mais au moins on peut dialoguer. Il nous explique à quoi ça sert, que lui soit dans le commerce équitable, enfin, le réseau, la coopérative, l'association, etc. Donc on peut mesurer le résultat de ce qu'on fait nous au quotidien, localement. C'est déjà, même si c'est un peu loin, mais je vais passer la parole à Gérald.
Alors, Gérald Godreuil, délégué général d'Artisans du Monde, cette relation avec le producteur, comment elle se fait dans le réseau Artisans du Monde ?
Alors, la relation se construit. Alors, pour beaucoup de producteurs, c'est une relation très ancienne, puisqu'on a bientôt 50 ans, et on est aussi dans une démarche de relation dans la durée, de relation durable, dans tous les sens du terme. Et en fait, souvent, on a travaillé avec ce qu'on appelle des groupements de producteurs. C'est-à-dire qu'un enjeu et un des impacts du commerce équitable, c'est comment justement on aide à renforcer des groupements de producteurs pour justement rééquilibrer le rapport de force entre le producteur et l'acheteur. Parce que souvent, on a des centaines, des milliers de producteurs face à un ou deux acheteurs. Donc en fait, finalement, le rapport de force, il est en favorable à l'acheteur qui finalement dicte ses conditions. Et donc le commerce équitable permet justement de renforcer le pouvoir des producteurs et de pouvoir comprendre que son produit, il vaut un certain prix, qu'il y a des gens qui sont prêts à payer ce prix juste, qu'il y a des consommateurs qui sont prêts à payer ce prix juste, et donc de créer une filière durable, viable, pour à la fois les producteurs et même pour le consommateur. Parce que là, on a parlé beaucoup de questions sanitaires, mais pour le consommateur, de savoir d'où vient son produit, dans quelles conditions les produits, et de savoir aussi que le produit du commerce équitable, ce sont plutôt des produits bio, qu'on soutient aussi un modèle plutôt agroécologique, et ce qui fait que l'idée, c'est pas de rendre malade les consommateurs et les producteurs. Donc voilà, le bénéfice, il est pour tout le monde. Et on pourrait tirer un peu le fil des impacts. Il y a des impacts très concrets pour les producteurs. On parlait tout à l'heure assez rapidement de la question de l'exode rural. En fait, il y a beaucoup de gens qui quittent leur terre, pas parce qu'ils veulent quitter leur terre. Après, il y a aussi des fois des choix, on n'a pas forcément envie d'avoir les... C'est un métier comme dur, hein, agriculteur, donc je ne suis pas le placé pour en parler. Donc effectivement, on peut entendre que des gens ont envie de faire autre chose. Mais il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'exode rural, de migration contrainte, parce que les gens ne peuvent pas vivre dignement de leur terre. Dans le monde, 60% des gens sont des paysans, et il y en aura de moins en moins, parce que derrière, ils sont aussi concurrencés par la PAC, qui subventionne aussi des produits alimentaires qu'on va exporter, on appelle ça du dumping, c'est qu'en fait, en exportant, en faisant croire qu'on veut aider le monde, qu'on veut nourrir le monde, on détruit des agricultures locales. Donc la question de la relocalisation des échanges, de la production et de la consommation, c'est un sujet qui est valable dans tous les pays. C'est ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire, le choix de choisir qu'est-ce qu'on veut produire pour sa population, également adaptée à sa culture. Et donc voilà, donc ça, c'est des vrais enjeux politiques et économiques.
Et puis oui, cette relation avec le producteur, bah effectivement, quand on connaît le producteur, quand on sait qui c'est, c'est une valeur ajoutée même à ce qu'on fait. On parlait tout à l'heure de plaisir, même de manger. Voilà, je sais qu'à certaines tables, on dit bah, ça, c'est le poulet d'Odile, c'est les pommes de Jacques, c'est les trucs de... Enfin, mais ce que je veux dire, c'est ils ont des noms, en fait, les aliments, au-delà. Ils ont une provenance, ils ont un nom, ils ont un quelque chose, quoi.
Oui, oui, pour compléter ce que j'ai dit, moi, par rapport au rapprochement avec les producteurs du Sud, donc, quand on a créé la première AMAP donc sur Évreux, moi, mon rêve, c'était de travailler aussi avec Artisans du Monde. Bon, malheureusement, hein, la présidente de l'époque, il y en a une qui n'était pas d'accord avec ça, c'était du local, point barre. Bon, donc, mais heureusement, donc moi, je suis super content de savoir que Nathalie à Verneuil, qui n'est même pas au réseau AMAP, mais qui fonctionne comme une AMAP, travaille très bien avec Artisans du Monde, et je crois qu'on a un exemple à suivre à ce niveau-là. Et quand vous expliquiez qu'effectivement, vous faites venir des paysans de là-bas, je pense que ça serait besoin de renforcer les liens Artisans du Monde et réseau des AMAP. Et par rapport à vous avez évoqué la question des migrations, je pense qu'effectivement, même la FAO a pris conscience de ça il y a une petite dizaine d'années, lors d'un sommet à Rome, un sommet des ministres de l'agriculture, et il avait averti le directeur de la FAO en disant que si on n'était pas capable de changer notre politique agricole vis-à-vis des pays du Sud, il ne fallait pas s'étonner de voir augmenter les problématiques de migration et de djihadisme, de résistance. Bon, toutes ces problématiques de violence, c'est directement lié. Et c'est ce qui, moi, me fait mal au cœur de voir comment le sort qu'on réserve à ces jeunes qui n'ont plus que deux solutions, soit prendre la pirogue ou la kalachnikov que les cinglés vont leur proposer. Et ça, c'est un drame. Mais nos politiques n'ont pas l'air d'avoir compris ça encore. Et ça a encore été évacué du débat, d'une échéance majeure. Voilà.
La FAO, c'est quelle est cette organisation?
L'organisme qui s'occupe de l'alimentation au niveau international, quoi. Food Organization. Organisation alimentation.
Oh, d'accord, bon, bah, en tout cas, c'est sur l'organisation de l'alimentation. Très bien. Jacques, non, moi, je reste avec vous parce qu'on va arriver sur la fin de l'émission. Et vous l'avez dit, Jacques Godard, qu'il fallait qu'on parle de mutualisme quand même. Hein. Et vous avez dit, ça faut qu'on le place avant la fin de l'émission. Ouais. Alors, je ne sais pas comment on va l'aborder, mais qu'est-ce que cette notion de mutualisme déjà et pourquoi c'est un morceau de solution?
Eh bien, parce que j'ai été très agréablement surpris de voir que il y a un projet qui s'appelle Sécurité sociale de l'alimentation, qui est porté aujourd'hui par, au départ, c'était des ingénieurs, une promotion d'ingénieurs agricoles Supagro sur Paris, avec des spécialistes des questions sociales et droits du travail et tout ça, qui ont mis au point ce projet-là en disant, face au constat d'aujourd'hui où on a pas loin de 10 millions de personnes qui ont du mal à manger correctement, et qu'on a bien vu que le fait qu'on mange pas bien, ça détermine les questions de santé, on a des problématiques de santé. Donc ils ont imaginé une branche nouvelle, supplémentaire, à la sécurité sociale de l'alimentation, à la sécurité sociale qui est bien complètement dénaturée par rapport à ce qui a été mis au point à la sortie de la dernière guerre par le CNR, Conseil National de la Résistance. Donc il y a à revoir ça, mais à ajouter cette composante-là. Et l'idée, ce serait de permettre que ça soit un droit à l'alimentation. Parce qu'aujourd'hui, on a ce droit n'est pas du tout respecté. Et pour que les gens puissent manger, choisir correctement ce qu'ils ont à manger, il faut d'abord qu'il y ait des caisses locales qui puissent décider sur les producteurs locaux qui font une agriculture propre et des aliments corrects. Donc pour conventionner certains producteurs locaux et donner des bons d'achat, c'est-à-dire que bon, ça serait financé pareil par les prélèvements sur les salaires et sur la valeur ajoutée des entreprises, comme pour les autres. Et chacun aurait droit à... Bon, alors ils partent à 150 euros par mois. Moi, je trouve que c'est utopique pour l'instant dans un premier temps, parce qu'on est tellement loin de l'autosuffisance alimentaire dans des départements comme le nôtre qu'il faudrait prévoir ça sur 10 ans, expérimenter. Aujourd'hui, par exemple, certaines AMAP travaillent sur la notion de panier solidaire. Bon, bah, il faut expérimenter ces démarches-là. Et donc, voilà, je crois que... ça serait un droit pour tous, même quel que soit le revenu. Donc, il n'y a pas de stigmatisation des gens qui ont les moyens ou pas les moyens. Et là aussi, sur bon, on parle beaucoup des banques alimentaires qui sont indispensables aujourd'hui. Mais moi, les banques alimentaires, je les ai connues pour la première fois, c'était au Burkina Faso aussi. Et aujourd'hui, ça prouve bien qu'on est dans un pays, le mal développement est généralisé partout sur la planète, quoi. C'est quand même dramatique qu'on en soit arrivé là chez nous, d'où ce projet-là. Donc j'ai amené les petits bouquins et ça mérite qu'on s'y intéresse. On n'en a pas encore entendu parler, mais peut-être que pour les législatives, ça va sortir.
Je vous propose, avant d'arriver sur la conclusion de cette émission, sur laquelle on reviendra sur nous, consommateurs, comment on peut avoir des astuces, des ficelles, des fonctionnements peut-être différents, et vous laisser un mot de la fin, je vous propose une courte pause musicale. Si vous le voulez bien, Vinci, bien sûr, hein, c'est vous qui décidez. Thank you. Et nous aussi, on fait du circuit court, même dans la musique. C'était Métro Verlaine que vous écoutiez à l'instant. Nous sommes toujours en direct, en live et en public de l'anniversaire d'Artisans du Monde sur la place du Général de Gaulle.
Vous écoutez Prospective à Évreux, 102.4, dans le sud de l'Eure, 95.9 et partout ailleurs sur prospective.net. Prospective, le métier culture.
Et je vous le disais, nous fêtons l'anniversaire d'Artisans du Monde. C'est le 20e anniversaire, là, aujourd'hui, sur cette place du Général de Gaulle à Évreux. Rejoignez-nous, hein, vraiment. Vous êtes invité à un anniversaire. Il y a quoi de plus sympa aujourd'hui? Pas grand-chose. Autour de la table, nous allons conclure une émission que nous avons démarrée il y a un petit moment déjà, qui sera bien entendu en podcast pour ceux qui voudront la réécouter du début si vous nous prenez en cours. Autour de la table, nous avons Gérald Godreuil, délégué général d'Artisans du Monde, Michel Deleu, bénévole Artisans du Monde Évreux, Sophie Bertin, maire d'Aviron et partenaire d'Artisans du Monde. Et puis avec une vision autour des circuits courts sur la commune d'Aviron, nous avons Jacques Godard, producteur de pommes, et puis qui défend quand même une certaine idée de la production et de la consommation. Nous avons Nathalie Gillard, présidente des paniers de Verneuil. Et puis c'est Anne de Artisans du Monde de Louviers, qui a pris la dernière chaise qui était disponible. Vous savez, il y a toujours ça, il y a des traditions, des fois où on laisse une assiette pour celui qui pourrait venir. Et bien nous, on avait laisser une chaise pour celui ou celle qui voulait venir. C'est vous qui vous en êtes saisi, Anne, pour la conclusion de cette émission. Aujourd'hui, sur cette émission, on a parlé de tout un tas de choses, d'éléments. Peut-être que des auditeurs ont découvert certaines notions, certains circuits, certaines façons d'aborder les questions alimentaires, mais pas seulement, les questions économiques de manière générale. Est-ce qu'il y a, pour les auditeurs qui souhaiteraient aller plus loin, des endroits où on peut trouver de l'information, des lectures à conseiller, des éléments à glisser dans le creux de l'oreille de nos auditeurs? En tout cas, voilà, pour ceux qui souhaiteraient aller un petit peu plus loin, quelles sont les pistes qu'on pourrait leur donner à ces auditeurs? Gérald Godreuil.
Moi, je dirais, déjà, je trouve que ce qui a été dit à un moment par vous, c'est assez important, c'est la notion de plaisir aussi. Le plaisir et le sens, c'est en fait le sens de ce qu'on fait dans un monde aujourd'hui où on est en quête de sens et qu'effectivement les informations qui nous arrivent sont plutôt déprimantes. Je pense se dire que chacun à son niveau peut agir individuellement et collectivement par ses choix de consommation. Ben voilà, ça donne peut-être un peu des lueurs d'espoir parce que derrière il y a des producteurs, il y a des gens à qui on permet de vivre mieux et puis on contribue aussi à ce défi climatique à son échelle. Donc voilà, ça c'est je pense des choses qu'il faut aussi se dire, qui sont essentielles, d'être fier de pouvoir changer nos modes de consommation et c'est de le partager avec des gens autour de nous. Et donc pour s'informer, alors je ne serais pas très objectif, je dirais il y a le site Artisans du Monde et notamment il y a un certain nombre de ressources qu'on met sur notre site avec des vidéos, des podcasts, des informations, chacun pourra trouver de l'information. Et comme nous on a bien l'esprit collectif, on a aussi mis une page sur notre site sur vers les acteurs de la transition. Dans ce qui on peut retrouver effectivement les camarades, c'est un peu mais de cocaïne, des AMAP, des narcos, enfin, voilà, montrer que chacun dans son quotidien peut trouver des solutions. Et il y a un site aussi qui est très bien qui s'appelle Transiscope. C'est une carte de France où vous allez retrouver sur ce site internet des milliers d'adresses de producteurs, d'associations qui vous permettent autour de chez vous de consommer plus juste, de consommer bio, de consommer local, de consommer équitable et de trouver des producteurs qui vont proposer des produits de qualité, bons pour vous et bons pour la planète. Transiscope.
Transiscope. Je vois tout le monde note sur le coin de la feuille. Effectivement. Ah bah oui, même sur les bancs. Voilà, tout le monde note. Hein, c'était l'info du jour. Transiscope. On invite bien sûr les éditeurs à aller voir d'autres informations, d'autres éléments pour aller un peu plus loin. Nathalie Gillard.
Je suis très contente qu'on ait aussi parlé de la notion de plaisir de manger. Et donc, nous accueillons les futurs adhérents et les gens qui veulent des informations tous les mardis soirs entre 18h et 19h dans la petite salle des associations de Verneuil, entre la salle de musique, l'école de musique et l'ancienne MJC. Voilà.
Très bien. Eh bien, parfait. D'autres informations? Oui, alors Anne, vous étiez d'artisan du monde Louvier.
C'est ça.
Si on veut aller un peu plus loin, vous, c'est facile.
Bah voilà. Non, mais de toute façon, artisan du monde Louvier, Évreux, on a toujours été très liés. Et puis là, pour continuer le commerce équitable, nous travaillons sur la quinzaine du commerce équitable qui commence le 7 mai jusqu'au 22 mai. Donc à Louvier, on va faire quelques actions sur le marché, entre autres, à la Biocoop aussi. Donc si vous voulez continuer à travailler avec Artisans du Monde côté Louvier, bah, retrouvez-nous sur le marché, par exemple, et puis bien sûr, à la boutique.
Eh bien, c'est parfait. Est-ce que quelqu'un, peut-être un dernier tour de table, un mot à ajouter, quelque chose à conclure? Votre conclusion personnelle, j'ai envie de vous dire, les uns, les autres. Gérald de Gaudreuil.
Alors, moi, je crois qu'il y a un événement qui a prochainement, qui s'appelle les élections législatives. Alors, je ne vais pas dire pour qui il faut voter, mais je pense que les choix de société sont portés par des hommes politiques et la régulation par les pouvoirs publics est essentielle. C'est-à-dire qu'on peut demander aux consommateurs, aux citoyens de faire des démarches volontaires pour respecter les droits humains, mais je veux dire, vraiment, c'est aussi le rôle des États de faire respecter le droit international, de faire respecter les droits humains, de faire respecter la préservation de l'environnement. Et ça, ça se passe dans les hémicycles, dans les assemblées nationales. Le citoyen est là pour choisir ces personnes qui vont fixer les règles, les lois qui nous permettront de préserver la planète et préserver l'humanité. Donc voilà, donc chacun, je les invite à lire les programmes et de faire des choix qui permettent justement d'avoir un avenir plus désirable.
Jacques, vous souhaitiez conclure aussi? Oui, tout à fait.
Pour les personnes qui veulent approfondir ces défis-là, moi j'ai eu la chance de faire la connaissance aussi du centre d'études LASCO sur les transitions. LASCO comme la grotte, mais ça n'a rien à voir, c'est un centre qui est basé sur Nantes. Et ils ont eu à travailler pendant 5 ans sur la question du droit à l'alimentation. Ils ont mobilisé pas loin d'une centaine d'experts, financés par l'Europe d'ailleurs. Et en fait, leurs deux conclusions, ça a été de dire que pour sortir des impasses actuelles du système, il faut construire des démocraties alimentaires, et puis décentraliser possible, mais aussi au niveau international. Et au niveau international, justement, du fait que le problème majeur, c'est que le droit des affaires s'est imposé depuis plusieurs décennies face aux autres catégories de droits, les droits de l'homme, les droits universels, eh bien, il fallait sortir l'agriculture et l'alimentation de l'OMC parce que c'est des produits de base qui sont, comme l'avait prévu la charte de La Havane dans les années 48, donc après la guerre, parce que il n'y a pas de raison que les lobbies, les sociétés multinationales s'approprient ces besoins vitaux, et donc il faut voilà. Donc ça, et puis aussi plus près de nous, donc le Conseil national de l'alimentation qui travaille sur des questions. Vous pouvez consulter sur internet. Il y a des avis sur beaucoup de choses, et il y a aussi des solutions proposées par le Conseil économique, social et environnemental quand il aborde des questions agricoles. Ces 200 membres à peu près qui trouvent des solutions, parce que les solutions aujourd'hui on les connaît et on n'a plus, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est très possible, notamment les rapporteurs spéciaux pour le droit à l'alimentation, que ce soit Olivier de Sutter ou avant lui, ils savent qu'il faut développer l'agroécologie partout sur la planète pour respecter l'environnement et le droit du travail. Donc voilà, les informations, les solutions, on les connaît, et c'est pour ça que c'est maintenant aux politiques. Et pour que les politiques bougent, eh ben, il faut qu'on se serre les coudes et puis qu'on aille les interpeller, avec les maires, Sophie, il n'y a pas de souci, la communication fonctionne bien, mais faut pas, les autres, ils ne sont pas sur un piédestal, et il ne faut pas hésiter à ouvrir la porte et à leur dire voilà. D'ailleurs, on l'avait essayé une fois avec le réseau des AMAP, et quand le syndicat CONF va les voir, ils nous disent on est content de vous voir parce que vous n'êtes pas des violents, ça se passe bien avec vous, quand on va les voir avec les consommateurs, là, ils nous entendent et ils nous regardent mieux, et ça a plus d'effet, à mon avis. Donc, il ne faut pas hésiter à aller interpeller les politiques.
Merci, Jacques Godard. Sophie Bertin, maire d'Aviron.
Donc là, il faut interpeller les politiques. Hein. Mais en tout cas, dans le concret, quand on est élu, effectivement, les collectivités, on a notre part de responsabilité à prendre pour acheter, pour fournir des produits de qualité à nos citoyens, mais aussi pour les acheter. Fournir des produits de qualité, ça veut dire les acheter à des c'est respecter les producteurs, voilà. Et je suis un peu confuse, pardon, j'arrive pas à finir.
Non, mais on voit bien l'idée.
Mais en tout cas, ADM est un moyen pour faire ça. Et quand on achète à ADM, on sait que ça sera gage de qualité.
Alors Michel, c'est vous qui aurez le dernier mot. Un dernier mot avant de donner la parole à Michel, sinon on conclura avec Michel. Michel, c'est à vous.
J'ai juste une petite phrase qui est pas vraiment un peu hors sujet, mais pas tout à fait. On n'a pas du tout parlé de producteurs d'artisanat, mais voilà, on a aussi, on parlait de plaisir, le plaisir d'offrir. On peut offrir aussi à travers les boutiques Artisans du Monde de l'artisanat pour se faire plaisir et qui est fabriqué de façon éthique et responsable. C'était juste là pour te dire un petit mot sur l'artisanat. Sinon,
ça c'est parce qu'on a commencé à midi moins le quart, on avait déjà faim. Donc
voilà. Sinon, notre présidente, je sais pas où elle est. Au nom d'Artisans du Monde d'Evreux, on va remercier nos Jacques, Nathalie, Sophie, bien sûr Gérald, les copains de Louvier qui étaient là il y a 20 ans. Tu peux dire un mot, Sylvie?
Bonjour, je remercie tout le monde, alors tous les participants de la table ronde et puis tous les spectateurs, les auditeurs qui nous ont écoutés, c'est super intéressant. Et merci, un grand merci aux bénévoles, parce que depuis 20 ans, si le groupe d'Evreux existe, c'est grâce aux bénévolat. On a été une trentaine, Michel l'a dit, à peu près 30-35 tout le temps, et là on a encore des nouveaux qui arrivent, donc bienvenue aux nouveaux, et puis s'il y en a d'autres qui sont intéressés, on vous attend.
Il suffit de pousser la porte, effectivement.
On est parti pour 20 ans.
Eh bien, c'était pas mieux qu'on voulait entendre. Merci beaucoup à vous. Nous étions, nous, avec la radio, sur l'anniversaire des 20 ans d'Artisans du Monde, 20 ans d'engagement et de commerce équitable. Bien entendu, la fête continue. On vous invite d'ailleurs à venir nous y rejoindre. C'est sur la place de la mairie, la place du Général de Gaulle, à Évreux, autour de cette table ronde d'échange et débat. Nous avions Gérald de Gaudreuil, délégué général d'Artisans du Monde. Nous avions également Michel Deleu, bénévole à Artisans du Monde. Nous avions Sophie Bertin, qui est maire d'Aviron, engagée sur ces questions de circuits courts notamment et de réflexion autour de la consommation. Nous avions Jacques Godard, producteur et militant. Si on peut le dire, Jacques, je vous assure, avec tout ce que vous nous avez dit, maintenant j'ai la confirmation, vous êtes militant. Nous avions également Nathalie Gillard, présidente des paniers de Verneuil. Merci à vous tous d'avoir échangé, réagi, interagi avec nous. Ah, Michel, elle ne veut pas me laisser le mot de la fin. Hein. Allez-y, Michel.
Merci à Principe Active de nous soutenir à chaque fois. Voilà, je dis merci à Principe Actif.
La radio propulsion justement de cette émission, c'était l'équipe de Choc. Nous avions Damien à la logistique, nous avions Jean-Jean au son dans les oreilles des gens ici au passage du micro, et c'est Vinci qui a mené ça de main de maître.